Pierre, vous recevez ce matin Arthur Kermal-Vézène. Il est né grâce à un don de gamètes. Il a bravé la loi pour retrouver son père biologique et il témoigne dans un livre, Le Fils, paru aux éditions L'Iconoclaste.
Et pour ceux qui nous voient sur Europe1.fr, il a le sourire aujourd'hui, Arthur Kermal-Vézène. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes né le 10 mai 1983 d'une PMA et d'un don de sperme anonyme. Vous publiez Le Fils, un témoignage dans lequel vous racontez votre quête pour retrouver votre donneur, un statut juridique pourtant soumis au plus strict anonymat. Les enfants issus d'une PMA n'ont pas le droit de rechercher le père biologique. Ça veut dire que vous êtes hors la loi?
Ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue de la loi française,
bah
effectivement,
oui.
Je suis hors la loi.
Vous êtes hors la loi et vous l'assumez?
Mais c'est pas tellement que je l'assume, c'est que je sais qu'il y a la hiérarchie des normes en droit qui fait que chaque loi doit respecter les lois supérieures, c'est-à-dire les traités internationaux. Je fais référence à la Convention européenne des droits de l'homme. Et toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, donc qui est la même entité.
Donc c'est la loi française qui est hors la loi.
Et voilà, ce que j'essaie de vous dire, c'est que depuis 40 ans, c'est la loi française qui est hors la loi.
Tout le monde ne connaît pas votre histoire, même si vous êtes déjà apparu plusieurs fois dans les médias, chez nous à Europe 1 bien sûr, dans la presse aussi grâce à cet article. D'abord, c'était en 2006, le 22 août, c'était un article du Parisien. Racontez-nous, pour ceux qui n'ont pas suivi, comment vous avez fait pour retrouver votre vrai père? Et j'ai du mal à dire vrai père parce qu'on ne sait pas lequel est le vrai père pour vous dans votre tête.
Alors je pense que mon vrai père, c'est celui qui est devenu mon père par un phénomène d'adoption.
Henri.
Voilà, Henri. Mon père travaille en Afrique depuis plus de 30 ans et en Afrique, on sait très bien qu'on peut être élevé par des parents qui sont pas forcément les géniteurs. Et donc moi, j'ai été élevé dans cette famille-là où on part du principe qu'un père, ça se fait par l'adoption, par les liens, par l'affection, par la transmission psychique, physique, etc. Donc mon père, c'est celui qui m'a porté dans sa tête et dans son cœur.
Mais vous avez eu envie de retrouver celui...
Mais il se trouve, voilà, que j'ai un père, une mère et un
géniteur. Vous existez
et un géniteur.
Concrètement.
Voilà, parce que j'ai toujours su comment j'avais été conçu. Pour moi, le plus important, c'était de pouvoir mettre un visage humain sur une personne humaine.
Mmh.
Et aujourd'hui, en faisant donc un test ADN, j'ai retrouvé l'identité de mon donneur en 12 heures.
Alors le test ADN, c'est un test américain?
C'est un test, américain.
Qu'on trouve sur Internet?
Qu'on trouve sur Internet.
Qui coûte pas très cher.
Qui coûte à peine 100 euros.
Une centaine d'euros.
Et au moment où j'ai fait le test, on était 10 millions à l'avoir fait. Et aujourd'hui, on est 26 millions. Ce qui veut dire que si quelqu'un recherche ses origines comme moi, il a 2,6 fois plus de chances de retrouver son géniteur que moi.
Ouais. Bon, pour faire court, après ce test, vous êtes mis en quête de Gérard, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est déconcertant, quand on lit votre livre, de constater à quel point il est facile de retrouver quelqu'un. Avec les pages blanches, avec un peu de Google Maps, en se rapprochant, en faisant des recoupements.
Oui, c'est vrai que moi-même, j'ai été pris dans une espèce de spirale. J'avais l'impression d'être... ça allait tellement vite, en fait. J'avais l'impression de vivre la téléportation alors que ça n'existe pas encore.
Mmh.
J'ai été très surpris, effectivement, par cette rapidité. Après, bon, j'ai quand même été aidé. Hein. C'est-à-dire que Laura, qui est celle avec qui j'ai eu un match, ma chance, c'est qu'elle faisait de la généalogie. Et que dans son arbre, par déduction, vu qu'il y a très peu d'hommes dans son arbre généalogique, c'était facile d'identifier quelle était la bonne personne.
Donc elle avait déjà recherché, elle, de son côté?
Oui, parce qu'en fait, elle était déjà dans une démarche. Et c'était, elle a fait le test, elle, pour compléter ses démarches de recherche généalogique.
Alors Gérard, Europe 1 l'a interviewé, c'était l'an dernier, un mois avant votre première rencontre, et voilà ce qu'il disait.
Ce qui m'a amené à faire des dons, c'est que tout simplement, moi j'ai été marié la première fois, on avait été 7 ans sans avoir d'enfants, et donc là je comprenais très bien la demande des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, je comprenais très bien.
Et cette surprise, c'était plutôt une bonne surprise ou une mauvaise surprise, ça vous a dérangé?
Ah non, c'est une excellente surprise, mais bon, ça reste une surprise, alors avec, elle n'est pas toujours à 99%, comment je pourrais dire, positive, hein. Il y a toujours un petit côté négatif, ben, oui, parce qu'il y a de l'appréhension, il y a comment ça va être perçu, au sein des familles.
La surprise dont Gérard parle avec Ève Roger, c'est justement cette lettre que vous lui adressez.
Oui, voilà, en fait, je suis allé voir ses voisins parce que je voulais pas être intrusif. Et donc, j'ai remis un courrier et ils avaient pour consigne de lui remettre de la façon la plus discrète possible, en main propre et à lui seul. Ils ont très bien rempli cette mission. Le problème, c'est que je leur ai donné le courrier en octobre et ils ont attendu le 23 décembre pour lui donner le courrier.
Cherchez le bon moment.
Et Gérard me passe un coup de fil le 25 décembre à 10h. J'étais dans ma voiture, je le raconte dans le livre.
Plus, ouais.
J'ai mes deux garçons dans la voiture derrière moi. Et là, j'ai quelqu'un qui me dit « Qui est-ce qui pourrait t'appeler un 25 décembre à 10h ?» Je dis « Je sais pas du tout. » Il me dit « Oui, ça serait dommage vu le temps que t'as passé à me chercher. » J'ai dit « Ah !» Alors effectivement, si ça pouvait être Gérard, ça me ferait vraiment plaisir. Et là, il me dit « Oui, c'est Gérard. Bravo de m'avoir retrouvé. J'aimerais bien savoir comment t'as fait. »
Comment est-ce que vous avez intégré ce nouveau père dans votre vie et qu'en a pensé celui qui vous a élevé ?
Bah, à vrai dire, le fameux courrier que j'ai remis au voisin, c'est mon père qui l'a rédigé avec moi. Donc, ma mère l'a relu.
Quand bien même, ça a pas dû être simple pour lui.
Bah, de toute façon, la PMA, à la base, c'est toujours une violence pour les parents. C'est-à-dire qu'elle a découvert de la stérilité, il y a quand même eu blessure narcissique, on s'attend à pouvoir avoir des enfants, et puis on se rend compte que c'est pas possible. Bref, c'est quand même, à la base, le point de départ de la PMA, c'est une violence.
Mais vous l'écrivez dans votre livre, vos parents vous disent, mais qu'est-ce qui te prend d'aller quand même tout le temps? On croirait presque à une addiction, cette nouvelle amitié ou ce lien que vous avez avec Gérard.
C'est vrai que je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi c'était si difficile de comprendre ma quête. Et j'ai trouvé une petite phrase qui m'amuse, c'est que, vous savez, les seules personnes qui vous disent que l'argent c'est pas important, c'est ceux qui en ont. Mais les origines, c'est la même chose. Il y a que ceux qui connaissent leurs origines qui vont vous dire que c'est pas important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vivre la privation des origines pour vraiment comprendre ce que c'est. C'est un peu comme la faim. Il faut connaître la faim pour vraiment savoir ce que c'est.
Et ça, c'est vous qui le dites, mais c'est aussi les autres qui sont dans la même situation. Ah, vous en avez parlé.
Il y a beaucoup de personnes dans ma situation. Depuis que ça a été médiatisé, notamment sur vos ondes, je suis contacté par plein de personnes qui veulent savoir comment j'ai fait.
Vous écrivez ce livre avec la journaliste Charlotte Rottmann et Arthur, donc vous. C'est la troisième personne. C'est comme si vous étiez spectateur de vous-même. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit « je »
En fait, Charlotte m'a dit les éditions de l'Iconoclaste m'ont d'abord appelé parce qu'ils voulaient faire un roman, et puis donc un récit. Et puis je leur ai raconté mon histoire, et ils m'ont dit « mais en fait, c'est tellement hallucinant qu'il n'y a même pas besoin d'inventer quoi que ce soit ». Et du coup, ils ont préservé la troisième personne du singulier,
comme dans un roman,
pour raconter cette histoire, parce qu'ils m'ont dit « mais tu comprends Arthur, t'es le premier d'une très longue série et ton histoire se suffit largement à elle-même tellement elle nous dépasse ».
Et pour vous, c'est une histoire vraie ou un roman ?
Pour moi, c'est les deux, puisqu'en fait j'étais spectateur d'une histoire qui me dépassait complètement, tellement c'était énorme, tellement c'était au-delà de mes espérances. Mais il faut bien savoir que ce livre se base sur 15 heures d'enregistrement réel que j'ai eu avec mon donneur, que j'ai confié à Charlotte Rottmann, qui a pu faire un vrai travail journalistique et qui a rencontré tout le monde.
Le Fils aux éditions de l'Iconoclaste avec Charlotte Rottmann. Merci beaucoup Arthur Kermal-Vezen d'avoir été avec nous sur Europe.